Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole. Toucher, inspirer et partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole, bien, c'est le but de l'émission. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Bonjour, Penelope McQuaid.
Hey, salut Jean-Marie.
C'est le fun de se retrouver, hein?
Ben, c'est surtout le fun d'être de ce côté-ci du micro une fois de temps en temps. J'ai pas de notes, j'ai rien à avoir mémorisé, juste à m'abandonner, ce qui est quand même, pour moi, pas si difficile avec toi.
Tu le dis bien, c'est pas si difficile avec moi parce qu'on a une amitié qui remonte à 1994.
Exact.
Et on a vécu des hauts, des bas, des deuils, des peines d'amour, des remises en question, des maladies, des accidents. Bref, notre amitié s'est forgée au fil des ans. Et avant que le micro s'ouvre, tu disais, ça fait au moins deux ans et demi qu'on s'est pas vu.
Qu'on s'est pas vu pour vrai.
Pour vrai, en personne.
Et pour des raisons personnelles, c'est-à-dire s'asseoir, manger, se raconter nos vies.
Ça fait longtemps qu'on a fait ça.
Ça fait trop longtemps qu'on a fait ça, puis ça tombait bien parce qu'on a décidé de le faire après. On va poursuivre la discussion.
Nous, on va poursuivre l'émission ensemble, à micro fermé, autour d'un café. Mais le privilège et le bonheur de t'avoir, c'est dans l'émission Porte-Parole, c'est de rencontrer des gens que j'aime déjà. Je m'en vais pas à la rencontre de toutes, de personnes complètement inconnues de ma part. C'est des amis, c'est des gens que j'admire, c'est des gens qui m'inspirent, qui me nourrissent. Puis, comme j'essaie de pas trop être égoïste dans la vie, bien, je veux partager ce qui enrichit ma vie. Et c'est pour ça que tu es là.
C'est beau.
Ben, c'est pour ça que tu es là. Alors, Péné, ça c'est mon petit surnom, j'aime bien t'appeler Péné. Nous, on s'est connus aussi à travers différents mandats de porte-parole. Puis, toi, t'es porte-parole à bien des égards, puis dans plein de causes, tout au long de ta carrière.
Tout au long de ma carrière, pas en même temps, mais toutes une à la fois au long de ma carrière, il y en a eu quelques-unes.
Oui, mais si on avait à définir, pour toi, c'est quoi être porte-parole?
Bien, ça a changé entre la première fois qu'on m'a demandé de l'être.
C'était pourquoi?
Et aujourd'hui, la première fois, c'était très désincarné. Et je dis ça... parce qu'il y a plusieurs façons, raisons d'être porte-parole, puis il y a différentes façons et raisons pour lesquelles on nous demande d'être porte-parole. Alors, j'avais une grande visibilité à l'époque, j'étais chroniqueur à Salut, bonjour. Et on m'avait demandé d'être porte-parole de la société de l'autisme de Laval. Puis quand je dis désincarné, c'est pas que c'est pas des enjeux qui me touchent. Puis là, on retourne, là, il y a presque 30 ans. Donc, on connaissait beaucoup moins l'autisme. Il y avait beaucoup moins d'organismes. Celle de la société de Laval était très, très, très dynamique. Mais je pense que l'idée, d'abord et avant tout, c'était d'utiliser la notoriété que j'avais, qui est une très belle façon de faire connaître une cause. Mais c'était pas relié à quelqu'un dans ma famille ou à une entrevue que j'avais faite, par exemple, avec un parent d'autiste ou un adolescent autiste qui m'aurait ouvert les yeux puis qui serait devenu comme la raison pour laquelle j'avais envie. Mais c'est vrai que j'ai dit oui, puis on dit non souvent dans une carrière. En fait, c'est un grand... Je dis ça, puis c'est un privilège de pouvoir dire non. Mais quand on a une certaine notoriété, quand on est en communication, quand on a des tribunes, on se fait beaucoup, beaucoup approcher pour toutes sortes de choses. Et j'ai souvent dit non. Mais cette fois-là, j'ai dit oui parce que je trouvais... Mais c'est quand je dis désincarné, je veux dire par rapport, par exemple, maintenant, à la fondation de l'hôpital du Sacré-Cœur, là, on est à l'opposé parce que là, j'ai séjourné. C'est un des quatre établissements de santé où j'ai séjourné après un gros, gros accident que j'ai eu. Alors là, il y avait vraiment comme... voici ce que j'ai vécu de l'intérieur et voici comment je donne un sens à ce qui m'est arrivé. Tu parlais en ouverture d'émission de trouver un sens, de faire du sens. Ça c'est vraiment... Puis entre les deux, ben, il y a eu le grand chemin. Et ça, avec toi, et c'est toi qui m'as demandé d'être porte-parole au moment où les centres Jean Lapointe pour adolescents changeaient d'image, changeaient de nom, raffinaient leur mission. Et c'est devenu le centre Le Grand Chemin. Et tu savais que j'avais été aux prises avec des problèmes de toxicomanie très jeune dans ma vie, 12, 13, 14 ans. Et donc, là aussi, c'était quelque chose de très, très incarné. pour moi de dire oui, mais quelque chose de très, très confrontant aussi, parce que je pense pas que tous mes démons... En fait, quand on est pris avec des problèmes de toxicomanie ou de consommation, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de la vie. Donc ça a été très confrontant pour moi d'être porte-parole de ça alors que je me battais encore avec certains démons. En même temps, je sais pas, je voudrais te poser la question, pour être une bonne ou un bon porte-parole, est-ce qu'il faut être plus blanc que neige? Parce que moi, c'est une question que je me suis posée tout au long de ma carrière.
Et par rapport au Grand Chemin?
Au Grand Chemin, par rapport aussi à, je pense des fois, à la fondation de l'hôpital du Sacré-Cœur, je suis pas toujours celle qui a pris le mieux soin de ma santé. Mm-hmm. Je me rappelle qu'il y a eu des années à la fondation Sacré-Cœur où je fumais. Alors, est-ce que tu peux être une bonne porte-parole pour la santé si tu fumes, puis tu connais les effets, puis tu fumes pareil? Est-ce que si je me bats avec un problème de consommation d'alcool dans ma vie adulte, est-ce que je peux être une bonne porte-parole pour un centre qui vient en aide aux jeunes qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool, tu sais?
C'est une bonne question, mais je pense que la personne la plus sévère, c'est toi. C'était pas le directeur de la fondation, puis c'est pas le directeur ni de la fondation Le Grand Chemin, ni celui de l'hôpital Sacré-Cœur. C'est toi qui te regardes dans le miroir, puis probablement que tu te mets la barre haute aussi, tu sais, parce que t'es humaine. Alors, la dépendance, l'addiction, c'est une maladie, et de demander à une personne qui a déjà eu un problème de consommation, mais qui travaille fort encore pour ne pas laisser la consommation diriger sa vie, ça peut faire une belle ambassadrice. Mm-hmm. Au même titre que je suis porte-parole de la Maison L'Éclaircie, qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, bien, je suis encore en rémission. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas guéri. Mm-hmm. Je suis en rémission. Il y a encore une petite voix, des fois, qui n'est pas fine en moi, qui me parle, qui contrôle un peu mon assiette ou mon comportement alimentaire. Mais est-ce que c'est confrontant ou c'est aidant? Alors, tu sais, moi, j'ai des images de toi quand tu viens voir les jeunes au centre. Je pense pas que ce soit confrontant quand tu les vois.
Et pas l'air, ben non. Ça, c'est la chose qui est la plus... Ça, c'est le sweet spot. C'est vraiment l'endroit où tout ce qu'on est, tout ce que ces jeunes-là sont comme personnes, tout ce que leurs parents ont vécu, tout ce que les intervenants ont vécu, c'est comme... À dans cet instant-là, tout ce qu'on est fait du sens, a du sens, donne un sens. Fait que c'est sûr que dans ces moments-là, non, ces moments-là sont toujours dans leur imperfection, d'une très, très grande perfection, parce que là, tout le monde est vulnérable, tout le monde est à nu, tout le monde est dans la vérité du moment. Puis la vérité du moment, c'est pas je suis à la confesse ici ou je dois quelque chose ou je suis en performance. Il y a ça aussi dans la notion de porte-parole qui est très importante. C'est, en tout cas pour moi, qui est de sortir de la performance de porte-parole, parce que ça, pour moi, c'est un frein à tout ce qu'on peut déployer puis qui peut être aidant ou qui nous permet d'être en position d'apprentissage. Parce que pour moi, une porte-parole ou un porte-parole, c'est aussi quelqu'un qui est en position d'apprentissage, qui est dans la même position que le grand public. J'apprends. J'apprends des choses, j'apprends des comportements, j'apprends des patterns, j'apprends des émotions, j'apprends. Puis moi, après ça, je suis une courroie de transmission vers le grand public. Voici ce que je savais pas, ce que vous savez peut-être pas, mais ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu. Et voici ce que je pense qui est important à dire sur ces enjeux-là. T'sais.
Mais tu en as quand même parlé de façon assez ouverte et transparente, non seulement aux jeunes, mais aux gens de la Fondation Le Grand Chemin, les jeunes en thérapie, les intervenants, et dans les médias, tu en as parlé. Tu t'es pas caché de ça.
Non, puis quand j'étais avec Le Grand Chemin, j'avais commencé à animer Salut Bonjour au week-end, qui avait une chronique 20. Et en onde, je buvais. Je testais, je goûtais, en fait, avec le sommelier. Puis il y avait eu des parents qui avaient manifesté un questionnement. En fait, je m'étais jamais sentie jugée, je sais pas. Je pense que j'avais été bien protégée par les gens de la Fondation pour m'amener cette... Et puis on en avait discuté, puis la réponse, c'était le problème de Pénélope, c'était la cocaïne, c'était pas l'alcool. Donc voici une façon de discuter d'un enjeu avec les jeunes et avec leurs parents peut-être, de dire, il y a différents enjeux, il y a différents problèmes de consommation pour différentes raisons, à différents moments d'une vie. Et la portion destructrice de la consommation de Pénélope, c'était la cocaïne, c'était les drogues dures. Donc, l'alcool n'est pas un enjeu pour elle et en modération ici, ça. Mais il y avait quand même moi, j'étais comme on est dans une société où, puis on se parle de ça 20 ans plus tard et c'est encore plus présent. L'alcool est tellement présent partout dans nos médias. dans nos émissions, tout le monde en parle, dans le talk show que je faisais, je regarde OD, je regarde des téléromans, tu sais, l'alcool est très, 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 très présent. Alors, comment porter un message dans une société où ça fait partie des plaisirs, où ça fait partie de la fibre sociale?
Où tu as encore du plaisir. Toi, à ce moment-là, prendre un verre de vin, ce n'est pas une descente aux enfants. Tu étais capable de déguster et d'apprécier un verre de vin.
Absolument.
Puis je me rappellerai toujours une intervenante au Grand Chemin qui m'avait dit, il y a des jeunes qui rentrent en thérapie, ils ont 13-14 ans. Et leur vie est complètement à l'envers à cause de toutes les substances. Mais ce qu'on dit, là, c'est embarque en thérapie, fais le programme, puis tu verras si à 60 ans ou à 40 ans ou à 5 ans, on verra. Mais présentement, tu n'es pas capable de consommer. On va t'enseigner un mode de vie et tu verras. Et il m'est arrivé de rencontrer des jeunes que j'ai connus qui avaient 15 ans, qui ont fait la thérapie avec succès. Ils n'ont pas consommé pendant des années. Et plus tard, arrivé à 40 ans, 35-40 ans, ils ne l'avaient pas, ce démon-là. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bain. Donc, j'aime beaucoup la réponse qu'on t'a proposée et je trouvais que ça faisait du sens. Mais c'est vrai que ça pouvait être confrontant un petit peu aussi, et pour toi et pour les parents, parce qu'ils nous voient, les deux. Moi, je ne consomme pas depuis des années et toi, tu es à côté de moi et toi, on te voit prendre un verre de vin. C'est confrontant, mais en même temps, ça fait discuter et ça fait évoluer les mentalités et c'est ça aussi. Donc, quand tu embarques dans un projet d'être porte-parole, tu vas évoluer tout au long de ta carrière. Là, et qu'à un moment donné, ben, si c'est plus le grand chemin, ça va être autre chose. Puis c'est drôle parce que tu ouvres la porte. Quand tu as eu ton accident, tu faisais salut, bonjour, week-end. Et je me souviens très bien, quand tu as eu ton accident, j'étais au téléphone avec Luc Gervais, qui était le directeur général. Et là, il m'a dit, waouh, tu t'as su pour Pénélope. Et là, on était tous sur le cul. Là. Et là, évidemment, ben tu ne pouvais plus assister aux événements du Grand Chemin.
Puis on savait que ça allait durer pendant longtemps. Là.
Ben oui. Okay. Alors à ce moment-là, toi, tu es loin de te douter qu'un jour, tu allais être porte-parole de la Fondation.
C'est surtout que c'est arrivé plusieurs années plus tard pour la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur. C'est même pas arrivé. Il n'a pas sauté sur le... Ça aussi, c'est vraiment intéressant de voir comment tu es approché, pourquoi tu es approché. Puis ça, c'est intéressant parce qu'ils auraient pu sauter sur l'occasion... très rapidement.
En réadaptation, genre?
Mais absolument. Absolument, en réadaptation. Même qu'on s'était, tu sais, mon agent puis moi, on avait dit, bon, ben, est-ce qu'on va se faire approcher par la Société de l'assurance automobile pour pas texter au volant? Les gens savaient que j'étais en train d'essayer de brancher un appareil Blueberry alors que j'étais sur la route. Tu sais, je textais pas, là, mais ne tu sais, être 100% concentré sur la route, puis comment ça va être récupéré, puis comment on va être approché. Puis, il n'y a rien qui s'est passé pendant plusieurs années. Et à un moment donné, un appel de la Fondation... Tu sais, Sacré-Cœur, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée... J'ai eu mon accident à Québec. Fait que j'étais à l'Hôtel Dieu de Lévis pendant une première dizaine de jours. Après ça, j'ai été transférée à Sacré-Cœur une dizaine de jours en attendant d'avoir une place en réadaptation où je suis restée à l'interne pendant 3 mois. Puis quand ils m'ont approchée, 3-4 années plus tard, c'était exploratoire. Et pour moi, c'est devenu comme... C'était tellement évident parce que j'avais vu tellement de professionnels, la santé, de soignants, de patients, de toutes sortes. J'avais comme vraiment vu quelque chose à l'intérieur auquel j'aurais jamais eu accès si j'avais pas eu d'accident. Puis pour moi, c'était tellement important de parler de tout ce que j'avais découvert, de ces 400 000 personnes au Québec qui se lèvent tous les matins pour aller travailler dans le système de santé pour la santé et la vie des autres. Moi, je découvrais cette planète-là. J'avais jamais eu quelqu'un qui avait été hospitalisé près de moi pendant longtemps. Je connaissais pas cette réalité-là. Alors, en faisant 4 centres hospitaliers sur un an, là, j'ai vu toutes sortes de réalités. Puis ça m'a beaucoup intéressée d'en parler de l'intérieur après. Mais je suis retournée à Sacré-Cœur quand ils m'ont demandé. Je voulais voir d'autres départements. Je voulais voir l'oncologie. Je voulais voir le département de dialyse qui a changé ma vie. Moi, quand j'ai été en réadaptation, j'étais sur l'étage des amputés pendant des mois et des mois. Ces enjeux-là, ces réalités-là ont complètement transformé ma vision de la vie. Donc là, j'avais vraiment l'impression que je pouvais faire une différence en devenant porte-parole de la Fondation de Sacré-Cœur.
Ça ne pouvait pas être plus incarné.
Non, ça pouvait pas. Puis, tu sais, ça donnait un sens aussi à ce qui m'était arrivé parce que des événements comme ça,
On peut-tu le rappeler juste à les grandes lignes? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi exactement.
En 2009, un beau dimanche de mai, je travaillais à Salut Bonjour Weekend qui est enregistré, qui était en direct à Québec. Fait que je partais le vendredi matin de Montréal, puis le dimanche après l'émission, vers 11h, entre 11h et midi, je revenais tranquille. C'était une superbe, vraiment belle journée de mai. Donc, je suis en voiture, j'ai un nouveau BlackBerry, ça change d'époque. J'ai un tout nouveau BlackBerry que j'ai acheté la veille. Le toit ouvrant de ma petite Jetta est ouvert un peu à moitié parce que, bon, c'est mai à Québec.
C'est
frais. C'est encore froid. Et je suis sur la route, je m'en viens à Montréal. Et puis, je veux brancher mon BlackBerry pour avoir de la musique. Donc, je me déclipse ma ceinture de sécurité pour aller brancher dans le coffre à gants.
Ben oui, la prise était dans le coffre à gants.
D'ailleurs, ça aurait dû juste m'allumer que c'est là, c'est parce que c'est pas fait pour... C'est fait pour être au repos. Et je m'étais posé la question, la sortie avant. Est-ce que je sors, puis là, je branche mes affaires, puis là, j'enlève mon manteau, puis je me mets confortable, ou je coupe pas? Puis finalement, bon, je l'ai fait en même temps. Donc, et je me suis fait dépasser par la droite, j'étais dans la voie de gauche, par un gros poids lourd qui m'a surpris. J'avais dû ralentir en faisant tout ça. J'avais dû comme ralentir. Et là, dans le vacuum du vent du poids lourd, ben j'ai été pris dans le vent et j'ai perdu la maîtrise complètement de comme si j'étais sur la glace. Et je suis rentrée dans le fossé, et en rentrant dans le fossé avec le pied sur l'accélérateur, donc la voiture a fait quelques tonneaux et je suis sortie par la moitié du toit ouvrant. J'ai été éjectée en deux tonneaux, et consciente tout ce temps-là, fort heureusement, parce que j'ai pu revisiter tout ça sans que ce soit un traumatisme, sans que mon inconscient travaille trop pour l'enfouir. J'ai pu revoir tout ça, je me rappelle de tout.
T'es pas en douleur à ce moment-là?
Oh non, je suis pas en douleur encore, parce que je suis... Mais tu sais, je fais un premier capotage de voiture, puis je me dis, ah, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, j'ai pas trop mal. Là, je pense à mon BlackBerry dans la voiture, je fais, Colin, mon nouveau BlackBerry, maudit, va être scrap. Quand je suis éjectée par le toit ouvrant... Je perds une botte, donc je sens l'air frais sur un de mes pieds. Je perds une botte dans probablement qui est restée prise dans le toit ouvrant. Je me dis, ça se passe bien, il me semble que j'ai l'air d'être ça à Watt. Et là, j'atterris au sol. Là, c'est une autre paire de manches parce que je devais aller à la vitesse de la voiture, donc à peu près 100 km à l'heure, sur à peu près 100 pieds. Je suis bien tombée sur le dos.
Sur le gazon?
Non, parce que mai, c'est comme t'es la garnotte d'après-hiver. Là.
Ah, zut.
Et tout de suite, il y a des gens qui sont arrêtés des deux côtés de l'autoroute. Je pense pas que j'ai fait 10 secondes seule au sol. Il y a des gens qui sont arrêtés. Et il y a une femme qui est arrêtée, son petit garçon de 3 ans était dans la voiture. Elle a dit « Attends, maman ». Et elle est Nelly, qu'elle s'appelle. Je suis encore en contact avec elle. Elle s'appelle Nelly. Puis je l'ai revue à première fois avec Véronique Loutier. Elle était là avec son grand garçon de 12 ans. Qui avait été dans la voiture pendant une bonne demi-heure. Puis j'arrêtais pas de dire à Nelly, reste avec moi. Puis elle me disait pas qu'elle avait un petit garçon dans la voiture. Fait que elle restait quand même assez longtemps jusqu'à temps que Mais c'était plus qu'une demi-heure jusqu'à temps que les ambulanciers puis la SQ arrivent. Et j'étais consciente de tout. Puis les gens ont été, mais oh mon Dieu, tellement généreux, gentils. J'ai rencontré dans un restaurant des années plus tard un des premier répondant dans un restaurant par hasard. Je trouvais que lui et sa gang me regardaient bizarre. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils veulent, les messieurs, ils me regardent. Puis là, à la fin du repas, le monsieur m'a dit, mais j'étais un des premiers sur le site. Donc j'avais toutes sortes d'affaires de briser. Donc, c'est ça, j'ai été aux soins intensifs à Québec pendant une dizaine de jours. Après ça, transféré à Montréal. Puis après ça, en réadaptation pendant 3 mois. Donc, à l'interne, puis après ça...
À Lindsay? Où t'es allée?
À Lindsay-Gingras, okay. Pendant 3 mois. Et après ça, pendant 7 mois, je suis allée à Lucie Bruno en externe. Donc, 4 jours par semaine pour...
Oh, tu envoies du... Ça, c'est le festival des gens en reconstruction, là?
De toutes sortes.
Oh, wow!
Ça a été un parcours tellement enrichissant, puis les gens demandent, tu sais... Même avant qu'ils le demandent, je leur dis, si t'as à refaire, je referais... Tout pareil. T'sais, pour moi, ça a été quelque chose qui a été beaucoup plus... Ben, je peux dire ça parce que j'ai toute mon intégrité physique.
Oui.
Puis rapidement, dans le processus de guérison, j'ai été très, très, très consciente de mon grand privilège et des deuils que je n'aurais jamais à faire, alors que tout autour de moi, notamment les amputés, avait des gros deuils à faire. Puis je partageais le gym avec les amputés, mais il y avait un autre gym aussi où parfois j'allais, où c'était tous les blessés médulaires. Donc, tous les gens qui sont paralysés pour toutes sortes de raisons, de toutes sortes de façons. Puis des gens, là, qui sont amputés pour des raisons niaiseuses, de mettre ses décorations de Noël dehors, plonger dans un lac en juin.
Électrocution.
Toutes sortes de ouais.
Mais tu venais juste de dire que si c'était à refaire, je le referais. À quoi tu fais allusion?
Ben, c'est-à-dire si on me donnait le choix de refaire ma vie avec ou sans cet accident,
oui.
Je voudrais pas refaire ma vie sans cet accident-là. Pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup plus enrichissant que ça a été souffrant. Je me rappelle à peine de la douleur, mais je me rappelle de tous les apprentissages que j'ai faits sur moi, mais sur les autres, sur la résilience, sur l'humilité. Puis moi, je me donnais pas le droit d'être très vulnérable dans la vie. Quand c'est arrivé, j'avais 40 ans quand même. Donc ma vie adulte était très forgée, là. Mais j'étais quelqu'un qui m'arrangeait toute seule, qui ne demandait jamais de l'aide, même de mes meilleurs amis, jamais. J'en avais pas besoin. De ma tête, j'en avais pas besoin. Je m'organisais toute seule. Puis je me suis rendu compte que demander de l'aide, mes amis, c'était pour eux, ils demandaient juste ça de m'aider. Ma meilleure amie, Christine, que tu connais très bien, quand j'ai commencé à lui demander des choses, elle pleurait de bonheur. De me rendre service, que je lui demande, que je me montre vulnérable. Ouais. Tu sais, quand ta mère ou ton père, il faut qu'il te lave puis qu'il te nourrisse, comme quand t'étais un bébé.
As-tu apprécié ça, par contre? Ces moments de tendresse, d'intimité, d'avoir à être relavé à 40 ans. Y a-tu des moments que tu t'es abandonné puis t'as pu apprécier?
Tout le long.
OK.
Tout le long. À un moment donné, c'est comme la pudeur. Puis je pense que les drogues aidaient beaucoup. L'inhibition tombe beaucoup.
Ex-porte-parole de Le Grand Chemin qui parle.
Mais ouais, je pense que, tu sais, quand on nous les donne dans un milieu médical, c'est parce qu'elles sont vraiment nécessaires. Puis je pense qu'à un moment donné... Mais il y a un... Tu sais, moi, on ne sait pas comment on va être tant qu'on n'est pas confronté à ça. Moi, j'avais aucune idée que j'allais accueillir la mort au moment de l'accident, au moment où j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule, avant même que je savais que j'allais planter. Mais on le sait, là, quand le volant dans mes mains me glissait, là, je savais que je m'en allais vers la catastrophe. À ce moment-là, avant même le premier
tonneau,
j'ai dit, à la grâce de Dieu, je peux mourir maintenant. J'ai vécu 100 vies en une. Je suis totalement prête à laisser ma place à quelqu'un d'autre sur la terre. C'est exactement ce que je me suis dit. Puis ça, on le sait pas tant qu'on n'est pas confronté à la mort, comment on va réagir.
Il y a une caméra. Je sais pas si elle tourne d'ailleurs, mais... Tout le temps que tu dis ça, t'as les yeux fermés.
Oui.
T'as les yeux fermés, tu prends le temps de dire, à la grâce de Dieu, j'ai eu une belle vie. Je sais pas si tu revois l'image de l'accident pendant que tu parles ça.
Non, je vois pas les images de l'accident. Je me sens dans ma voiture en paix.
OK.
C'est comme j'étais en paix.
Wow.
J'ai même lâché le volant. Il n'y a eu aucune résistance, probablement, ce qui fait en sorte que j'ai moins brisé puis survécu. Il y avait une... J'étais et je suis encore totalement prête à mourir. Totalement.
Il y a une paix qui s'installe en toi, mais c'est spécial comment l'événement... Et moi, je te connais depuis une trentaine d'années. S'il y a quelqu'un quand même qui peut être un peu control freak puis qui peut être drôlement discipliné puis encadré dans sa vie, c'est toi. Et là, il n'y a plus de ça pantoute, là. T'as complètement lâché prise.
Mais j'étais abandonnée pendant toute cette année-là. Peut-être particulièrement les 3-4 mois où j'étais à l'hôpital, totalement abandonnée. Je veux dire, je me levais le matin, j'avais une job de reconstruction à faire. C'était pas compliqué. Je me rappelle pas d'avoir été de mauvaise humeur, irritée. Je me rappelle à un moment donné, au bout de 3 semaines, 4 semaines après l'accident, une bonne crise de larmes, un petit peu de découragement. Mais je sais pas où d'où viennent les ressources qu'on a puis qu'on sait pas qu'on avait. T'sais, je sais pas où j'ai puisé, je sais pas qu'est-ce qui dans ma vie m'avait amené à ce moment-là à m'abandonner dans les mains de plein d'étrangers qui prennent soin de moi. C'est leur travail, je leur faisais une énorme confiance.
Mais je vais te relancer puis je vais reformuler ma question. T'es une personne qui peut avoir des moments d'anxiété, dans ta vie depuis que je te connais.
Ah oui!
Puis
ah,
avant
oui,
l'accident,
oui,
parce que tu sais,
oui,
oui, au niveau de l'anxiété, ben, Pénélope...
En fait, c'est pas tant de l'anxiété que j'ai une partie très sombre.
Ouais.
Et, tu sais, des tendances dépressives, profondes. Mm-hmm. Je suis quelqu'un, oui, de torturé. Oui, tout cet aspect-là. Je comprends ce que tu dis.
Mais là, dans... en plein cœur de l'accident, il n'y avait rien de ça.
Et c'est drôle parce que quand je suis sortie de la salle d'opération, dans les minutes après, la première chose que j'ai dite à ma mère, ben j'ai dit deux choses. J'ai dit « Hey, elle n'est pas plate ma vie ». Ça, c'est la première phrase que j'ai dite après 5h30 sur la table d'opération. OK? Après ça, j'ai dit « J'aurai plus jamais de dépression de ma vie ». J'étais convaincue d'avoir été guérie. Ce qui s'est avéré faux.
OK.
Mais j'avais l'impression que parce que il y avait là-dedans une opportunité de saisir l'essence de la vie et de lui rendre grâce et de lui faire hommage. J'avais l'impression que... Mais c'est une maladie, la dépression. Fait que c'est sûr que... Mais j'ai plus jamais... Mais ça a changé bien les affaires. Ça a changé bien les affaires sur ce que tu mentionnes.
Oui.
Cet aspect-là...
D'insécurité.
D'insécurité, de trop de questionnements, de remise en question. C'est sûr qu'il y a un fond qui est resté. C'est dans ma personnalité propre. J'étais comme ça quand j'étais enfant. Mais c'est devenu beaucoup moins douloureux. Parce que ma réflexion, c'était... OK, je pense qu'en termes de souffrance... Si j'attends d'avoir beaucoup souffert dans ma vie... Et ma mère, j'avais une discussion avec elle une semaine avant l'accident. Et je lui disais, moi, j'ai toujours tout cru dans la vie.
Mm.
Puis elle disait, t'oublies, là, parce que dans ta vie, à 40 ans, t'as rien eu de tout cru. T'as travaillé pour tout ce que... Mais moi, dans ma tête, j'avais l'impression que tant que j'aurais pas payé pour mon bonheur, mon privilège, je le méritais pas. Une semaine avant l'accident, on a eu cette discussion-là.
Oh, wow.
Et elle m'a dit, tu vas frapper un mur. Tu vas frapper un mur si tu penses comme ça.
Elle a pas dit
tu
ça.
Colles le mur, elle dit tu vas le frapper.
Une semaine avant.
Une semaine avant l'accident.
Oh my God.
Et effectivement, pour rendre justice à cette vie-là, à cette deuxième chance-là que j'ai eue, il y a des choses, il y a des souffrances que je ne m'inflige plus. Je ne fuis pas celles qui se présentent, mais il y a des souffrances que je me suis infligées que maintenant je pense que c'est correct.
En fait, la Pénélope qui pouvait se torturer avant, elle, je ne la vois plus et ça fait longtemps.
Ouais,
c'est drôle, hein?
Ouais.
Parce que Dieu sait qu'on en a fait des thérapies.
On en a eu des discussions.
Des thérapies, des dans le sens qu'on a eu des longues discussions, des rides en auto où on se parlait à cœur ouvert. Cette Pénélope-là, je ne la vois pas présentement. Je l'ai dans mes souvenirs, mais je vois qu'elle a énormément cheminé. L'accident, il y est pour quelque chose.
L'âge, il y est pour quelque chose. L'accident, il y est pour quelque chose. L'humilité. L'humilité due à l'accident. L'humilité rentrée dans ma vie avec l'accident. Je n'étais pas quelqu'un d'immodeste.
Non, non.
Mais l'humilité là, profonde, là, au sens où les bouddhistes, par exemple, l'entendent. Ben, pas juste les bouddhistes, mais au sens de l'humilité profonde... Je la connaissais pas, puis je l'ai. Puis à moi, c'est mon plus grand cadeau depuis l'accident.
Mais elle est reliée aussi à ta finitude et que tout peut s'arrêter là.
Oui.
Ça rend humble ou arrogant. Et toi, tu n'es pas du tout arrogante.
C'est vrai que ça aurait
pas du tout. Non, t'es pas comme je suis invulnérable, il n'y a rien qui va m'atteindre, je ne suis pas tuable. C'est pas ça, c'est tout le contraire.
Et me rend compte de la vulnérabilité et de la finalité des autres. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur la finalité des autres. N'importe qui dans mon entourage peut disparaître, n'importe quand, peut souffrir, peut se retrouver dans cet état-là. Je me suis sentie coupable d'avoir fait de la peine à mes parents quand ils ont reçu l'appel de l'hôpital. Ça, c'est peut-être ce qui me fait le plus de peine, me rappeler ce moment-là où ils ont reçu l'appel, en fait, l'imaginer, puis me dire « Oh mon Dieu, j'ai fait vivre ça à mes parents. » Puis le regard de mes parents dans les mois après, quand je souffrais, mon père m'accompagnait au gym, ma mère, elle me regardait à travers la fenêtre des soins intensifs, puis je la voyais, tu sais, comme quand j'avais mal, elle avait mal, tu sais, tout ça, c'est... Fait que tout ça, ça ramène à notre petite condition, là.
J'ai en tête la photo. J'ai une photo de toi.
Oui, que t'as prise de ma mère, mon père.
Ouais, j'ai ça, puis...
Ouais, toute mini,
puis toute vulnérable et toute affaiblie aussi. Tu sais, ça fait pas longtemps que tu as eu l'accident, mais ce que j'entends, par contre, c'est que c'est tout ce que tu apportes quand tu dis « je suis porte-parole ». C'est ça que tu apportes. Mm. Tout l'ensemble de ton œuvre, de ta vie, les hauts et les bas, ta vulnérabilité, tes forces, c'est ce que tu mets au service de toutes les causes, mm. particulièrement la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur. Mm. C'est fabuleux, hein? Porter ça.
Ben, c'est tout un privilège de pouvoir rapporter le vécu. Utiliser son vécu, oui, mais pour apporter le vécu d'autres personnes. Quand je parle de quand je parle des patients de Sacré-Cœur, quand je pense à ceux qui sont en dialyse, moi, j'ai vu des affaires extrêmement fortes. Puis oui, je suis capable d'être empathique au premier degré pas avec cette condition ou cette douleur-là. Mais je peux être... Je sais c'est quoi être vulnérable puis être abandonnée aux gens puis dans... Fait que oui, ce qui me rend le plus heureuse quand je fais mon métier de porte-parole, c'est de raconter les histoires des gens que j'ai vus qui se sont retrouvés dans une vulnérabilité que je connais puis que je suis capable de communiquer.
Mais tu deviens leur porte-parole.
Mais non, c'est ça, exact. Le but, c'est entièrement ça.
À eux autres et à elles. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu sais que tu donnes un sens à ton accident. Tu donnes un sens à toutes tes périodes de souffrance, de doute, de noirceur. Et de peine, de vulnérabilité, et c'est ce qui te relie à toutes les personnes que tu as rencontrées dans ton cheminement en réadaptation.
Oh, non, c'est fou.
Et encore aujourd'hui, c'est fabuleux pareil, là. C'est riche, ça. Donc, c'est ça qui fait que tu es une porte-parole incarnée.
Ce qui est, je pense, essentiel à un travail de porte-parole, quand c'est à sa mesure.
Ben oui.
Quand, tu sais, on peut être porte-parole. Quand j'étais porte-parole de la journée des musées montréalais, c'était autre chose. C'était mon amour pour la culture, c'était mon amour pour l'art, c'était la démocratisation des musées quand les gens pensent qu'ils n'ont pas leur place dans un musée alors que nos musées leur appartiennent. Le tennis aussi, j'ai grandi là-dedans. Je connais les efforts, c'est quoi pour faire un sport à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est vrai, j'avais oublié le tennis.
Coupe Rogers,
porte-parole. Effectivement, une année.
Mais il n'y a rien qui accote ton engagement. Et j'inclus aussi un peu le grand chemin.
Mais c'est ça que j'allais dire. J'allais ajouter si tu n'allais pas le faire, le grand chemin. Parce que moi, l'adolescence est une période tellement... Ah, oh, mon Dieu, que c'est rough, l'adolescence. Ouais. C'est rough en partant. Moi, je connais pas de...
D'adolescence heureuse.
Ben, pour qui ça n'a pas été rock'n'roll? Ouais. Soit pour les parents, soit pour les jeunes. Tu sais, c'est pas une période qu'on traverse aisément. Il y a une tempête hormonale, premièrement, qu'on tout le monde maintenant, la science maintenant le dit, on est capable de l'expliquer. Mais quand t'es dedans, il y a des choses qui se passent à l'adolescence, sur toi-même, sur ta relation avec les autres, sur l'image. C'est déjà une période qui est extrêmement trouble. Ouais. Moi, c'était vraiment compliqué. J'avais une graine de délinquante en moi, en plus. Fait que juste ça, à parler de ça grâce au grand chemin, ça rejoint tout le monde en partant. Puis après ça, tu leur dis, imaginez, vous mettez là-dedans toutes sortes de situations familiales, émotionnelles, psychologiques, scolaires, qui font en sorte que tu ajoutes une consommation, qu'un jeune a le goût de se geler ou que si ça, ajoutez ça dans le mix, imaginez-vous. Mmh. Alors là, tout d'un coup, cette cause-là, qui n'est pas nécessairement une cause sexy, on s'en est parlé les premières années, c'est pas des adolescents qui sont malades comme des enfants peuvent l'être, qui sont... C'est automatiquement touchant, un enfant qui est malade, c'est sûr. Ouais. Écoute, ça nous brise le cœur. Un adolescent qui consomme, c'est déjà autre chose. On peut se rattacher à l'adolescence puis à se dire, ouais, OK, c'est une période pas facile, mais ajouter là-dedans un mix, là, il y a des biais de la part du public qui sont aux porte-parole de défaire.
Non, parce qu'un adolescent qui consomme fait chier bien du monde dans sa famille. C'est pas une maladie aimable.
C'est pas une maladie aimable. Puis pour bien des gens, c'est pas une maladie non plus.
Non.
Fait qu'il y a plusieurs biais, puis il y a plusieurs choses à déconstruire et à construire. Fait que pour moi, le grand chemin, ça a été vraiment quelque chose que j'ai aimé défendre, dont j'ai aimé parler, que j'ai aimé comprendre avec toi et les intervenants et les spécialistes, la science derrière ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que les parents vivent aussi quand ils viennent chercher leur jeune à la fin, là, puis ils ont la cérémonie ensemble.
Ah non, ça, c'est bouleversant.
Là, ça, c'est bouleversant. Puis c'est tout un... C'est pour les intervenants aussi qui laissent repartir l'adolescent, c'est un acte de foi, là. Parce que des fois, ils viennent d'une famille, c'est complexe. Les adolescents se retrouvent blessés, mais ils sont pas nécessairement les seuls, sont pas les seuls artisans de leur sort. Il y a des mécanismes familiaux, puis tout ça, puis ils retournent dans ces mécanismes-là. C'est quelque chose.
Ouais.
Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé pouvoir parler d'adolescence grâce à la Fondation Le Grand Chemin.
Ouais.
Vraiment, là, j'ai tellement appris. Puis les intervenants, qui sont eux-mêmes souvent issus de... Ça, c'est comme une, c'est comme une dynamique incroyable,
ouais,
là, une espèce
ouais.
de processus hallucinant.
Mais toutes ces rencontres qu'on fait comme porte-parole, comme bénévole, justement, au Grand Chemin, les rencontres humaines, c'est le Grand Chemin, c'est un grand chemin rempli de belles rencontres, puis t'as pogné le champ et ça t'a amené à l'hôpital.
Ouais.
C'est fou. C'est
ouais.
fou le lien du Grand Chemin, pogné le champ, et je me ramasse finalement porte-parole de la Fondation du Sacré-Cœur. C'est vraiment beau de t'entendre. C'est le fun de te retrouver d'ailleurs. Je te propose une mini petite pause, transition musicale. Puis après ça, on va revenir avec un petit chapeau dans lequel Marine une trentaine de questions que tu vas piger, que tu vas lire et on va s'amuser avec ça.
C'est toi qui vas répondre?
Et tu vois, c'est toi qui réponds. Ici Jean-Marie Lapointe, toujours en compagnie de Pénélope McQuaid à l'émission Porte-parole. Et là, on passe à la portion ludique et aussi un peu hasardeuse de l'émission où il y a une trentaine de questions qui ont été écrites par moi.
Okay.
Et puis, tu les piges au hasard. On prend le temps d'y répondre, mais tu les lis toi-même.
OK, parfait. Alors, tu aurais fait quoi en deuxième choix si tu ne faisais pas le travail actuel? Oh mon Dieu.
Je les récupère, tu peux me la redonner, le petit bout de papier.
Si tu me demandes, il n'y avait pas d'autre option pour moi, en fait. Il n'y avait pas. Je voulais être photoreporter de guerre. Mon père voulait que je sois médecin sans frontières. aujourd'hui, j'irais travailler en communautaire, ça c'est sûr. Mais j'ai longtemps rêvé d'être restauratrice ou de me partir une école de plongée.
Mais c'est des passions pour toi, de toute façon.
Manger. Ouais.
Non, t'es une foodie, si t'aimes la restauration
et
la plongée.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, la plongée, tu m'avais dit, suite à l'accident, tu pouvais pas en refaire.
Oui, j'ai pu.
Et t'as réussi.
Ouais.
Oh.
Ça, c'était quand même malade parce que dans l'accident que j'ai eu, mon poumon, l'enveloppe de mon poumon, d'un des poumons, a été atteint. Donc, exactement un an après mon accident, j'ai dû passer un test. Et les tests de plongée au Québec sont faits à l'hôpital où on m'a amenée quand j'ai eu mon accident. OK, c'est un hasard de la vie. Donc, un an plus tard, je suis assise sur le bord de l'eau à côté de l'hôpital, j'attends mon rendez-vous. Et là, je m'en vais savoir si je peux plonger dans ma vie ou pas. C'était capable de démarrer. Et finalement, j'ai pu donc aller plonger. Donc, un an et deux mois après, je partais en Australie, aux îles Fidji, à Singapour. Un mois toute seule avec mon pack-sac plongé. C'était malade.
Ah! Quel endroit pour retourner plonger.
Ouais.
Récif de la Grande Barrière.
Ouais. Toute seule, je me trouvais tellement forte un an après l'accident. Là, j'étais toute seule avec mon petit pack-sac à l'autre bout du monde. C'était quand même fou. Si tu peux imaginer 24 heures de rêve, du réveil au coucher, ce serait quoi? Ben, ce serait que je me lèverais pas. 24... Ben, pas que je me réveillerais pas. Je me réveillerais, mais je resterais au lit.
Hein?
Toute la journée. Pour moi, ça, c'est... Une journée de rêve, on m'amène à manger dans le lit, je lis, je dors, je regarde la télé, je dors, je fais ça là, 24 heures. Moi, mon sport préféré, c'est dormir.
Et le pire, c'est que quand t'as fait les chroniques culturelles à Salut, Bonjour,
mon Dieu, j'étais à l'opposé,
c'est que tu me disais, ma vie tourne autour du sommeil. Tout dans mon agenda, c'est, faut que je dorme là, faut que je fasse une sieste là, faut que j'aille m'amasser là. Toute ta vie tourne autour du dodo.
Du dodo. Je me levais, comme je dormais 4 heures la nuit, parce que je me couchais vers minuit après avoir été allé voir les spectacles. Je me levais à 4 heures. Puis l'autre 4 heures, il fallait que je le trouve pour dormir dans le jour.
Ben, tu y arrivais?
Ben, ça dépend. Tu sais, j'avais le visionne en presse le matin de telle heure à telle heure. Si je reviens chez nous, 20 minutes après t'arriver chez nous, il faudrait que je dorme. Puis si je dors 4 heures, ça veut dire que j'aurais 20 minutes après pour me maquiller pour repartir dans un 5 à 7, un lancement de 10. C'était comme tout était. C'était comme un toc, là.
Un plan survie, hein, de sommeil.
Ouais, mais en même temps, j'avais 24 ans.
Ben ouais.
C'était trippant, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, on m'offrirait 10 millions, je ferais jamais une émission du matin. Là. Jamais, 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 jamais. On a dit tantôt, plus de douleur.
Non, hein?
Plus de douleur infligée.
Je les brasse, là. Alors, vas-y. Okay. Prochaine question.
OK, OK. Alors, si tu avais un pouvoir magique...
La question, c'est quoi? Si tu,
si
avais,
tu avais un pouvoir magique...
Ça serait quoi?
J'aimerais ça être dans 25 ans. Voir les leçons qu'on a apprises de cette période de l'histoire dans laquelle on est en ce moment. Avec, MeToo et tout ce que ça a changé. On est dans un petit backlash. Fait que voir comment les choses, avec Black Lives Matter, avec tout ce qui est fluidité de genre, tous les droits LGBTQ+, la place des handicapés dans la société qui sont pour moi l'angle mort de la diversité. On parle beaucoup de diversité, mais notre société n'est pas encore vraiment faite pour eux. Là.
Non.
Pas du tout. Fait que j'aimerais ça, 25, 50 ans, voir qu'est-ce qu'on a appris de cette période de révolution humaine dans laquelle on est. Je suis bien curieuse de savoir si on est en train d'apprendre quelque chose ou pas.
Et surtout, de corriger le tir.
Ouais, c'est ça. Voir ce qu'on a appris, ce sur quoi on est capable d'agir, ce sur quoi on est resté braqué par rapport à 2023. Les choses sont très polarisées en ce moment, mais ça ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Non. Dans quelle direction ça va balancer? Pour qui ça va balancer? Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de solidarité dans des petits milieux, mais de plus en plus de petits milieux. Fait que tout ça va faire une espèce d'océan, je pense, de solidarité, de bienveillance, de communauté, d'esprit. Mais il va y avoir... est-ce qu'il va y avoir encore... il va y avoir encore, évidemment, des conflits armés, des populations sur la planète, le sud, le nord, ça va être encore plus polarisé. Les injustices climatiques vont être encore... Mais je suis quand même curieuse de voir le bon de l'humanité va s'être déployé comment d'ici 25-50 ans.
Je découvre un côté anthropologue et sociologue en toi.
Bien, je pense que ça, c'est mes dernières années à la radio qui ont cristallisé ça. Depuis 4 ans, je suis à la radio de Radio-Canada, donc tous les matins, 2h30, dans un créneau qui ressemble à aucun autre. On n'a pas ça ni à la télé, ni vraiment ailleurs à la radio. C'est-à-dire qu'en 2h30, on peut autant faire une demi-heure sur la vulve qu'une demi-heure avec Avocats sans frontières au Mali.
Ouais.
Dans une même émission, séparée par une chanson de Fouki. C'est vraiment ça. Donc, il y a la citoyenne en moi, la personne engagée, qui sortait dans la rue à 15 ans, qui militait, qui était très intéressée par le sort, qui militait contre l'apartheid, contre la guerre en Irak. Mais ça avait une place limitée dans ma vie parce que mon travail était très différent. Là, avec cette émission-là, mes préoccupations de citoyenne, d'animatrice, d'intervieweuse, d'humaine... je peux approfondir plein de réflexions. Je peux apprendre un paquet d'affaires. Je peux... Puis en toute humilité, parce que les gens ne me connaissent pas comme une spécialiste de rien de ça, ce que je ne suis pas. Donc, je peux aborder tous ces sujets-là juste très, très humblement en découvrant tout. Donc, oui, l'aspect sociologie, anthropologie m'intéresse tellement.
Mais t'es une pire généraliste. Tu l'es devenue.
Oui, je pense que c'est fou hein, quand même.
Tu l'es devenue, ma chère. Yes.
Alors qu'on est souvent mis dans des cases toute notre carrière.
Ben oui.
Là.
Prochaine question.
Le métier que tu as choisi de faire est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Moi, je pensais jamais faire ça. Je voulais vraiment pas faire ça dans la vie. Je voulais pas suivre dans les traces de mon père, en fait. C'est ça que je voulais pas. Et non, je pourrais jamais dire après la première... Parce qu'on a commencé notre carrière... Moi, j'ai commencé ma carrière avec toi.
Ouais.
Donc, on est en 94. C'est l'été. Je viens de finir mon bac en communication à l'UQAM. Tu animes avec Marcel Pilote une émission qui s'appelle Service compris à Télé-Québec.
Yes.
En deux mots, c'était quoi cette émission-là?
Ben, à l'époque, ça s'appelait même Radio-Québec. Et c'était la version estivale, légère de Télé-Service, qui est une émission de service. Et on était toute une gang autour de la table.
Il y avait Patrick Masbourian.
Jean-François Plante.
Jean-François Plante. Il y avait plein
Nathalie,
de monde.
On était une belle gang.
Nathalie Grandmont.
Oui, Isabelle...
Isabelle Vincent.
C'était une belle grosse gang. Mais ce qui était le fun de ça, c'était... C'était vraiment éclectique comme émission et ça a quand même cristallisé les bases de notre relation d'amitié.
Absolument.
Toi et moi. Puis que tu as quand même été reporter, journaliste, un peu chroniqueur sur cette émission-là. Ce que tu as fait quand même, mais tu as dit tantôt Winston, mon père, ton père, Winston McQuaid, tu ne voulais pas nécessairement suivre ses traces, mais il faisait de l'animation.
Ça a été une grosse vedette dans les années 70, 80, 90 de la télé. Il a fait beaucoup de radio.
Et tu ne voulais pas faire ça, toi?
Moi, je ne voulais pas être la fille d'eux. En fait, je ne voulais pas être la fille d'eux, puis je ne voyais pas. C'était pas une passion. Moi, je jouais pas à faire des talk shows dans mon sous-sol. Tu sais, souvent, on entend Véronique Cloutier dire, moi, elle jouait, elle partait à son enregistreuse, puis elle faisait des shows, puis. Moi, je faisais pas ça. C'était pas quelque chose à quoi je rêvais. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je dessinais. Je savais que j'irais sûrement dans quelque chose d'artistique, mais j'avais vraiment aucune idée. Puis je suis allée en communication. Moi, je pensais écrire dans le devoir. Moi, c'était ça mon... Hey, c'est un échec monumental. Je pensais que c'était ça que j'allais faire en sortant de mon bac. T'sais, je me dirigeais plus en journalisme, écrit. Puis finalement, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Donc, à la question, est-ce que je pensais au début de mon métier, que ce serait ce que c'est devenu, d'un contrat à l'autre. Moi, je ne savais pas, quand j'ai commencé avec toi, à Service compris, que j'allais faire après ça une émission automobile avec Gabriel Gélina à TVA, puis que j'allais faire Star System avec Herbie à l'autre bout du monde, des tapis rouges, puis que j'allais avoir mon talk show, puis que j'allais faire ce que je fais. J'avais d'un contrat à l'autre, comme ça n'a jamais été mon rêve, je n'avais pas de but. Fait que moi, j'ai butiné de contrat en contrat.
T'avais pas un plan de match?
Hey, j'en ai encore pas. J'en ai encore pas, j'ai aucune idée, tu sais, de ce que... Mais j'ai manqué de travail, zéro journée dans ma vie.
Ben
là.
Non.
C'est vraiment incroyable.
Tu fais partie des chanceuses, mais au moins t'en es consciente.
Ça n'a pas d'allure. Puis de continuer à grandir. Quelle a été la plus grande surprise dans ta vie? De pas être. C'est-tu quoi? La plus grande surprise de ma vie, c'est d'être exactement comme je m'étais visualisée quand j'étais petite. C'est-à-dire, quand j'étais petite, l'image que j'avais de moi, c'était toute seule dans un condo, puis je regarde par la fenêtre, puis je suis toute seule.
Pas d'enfant, pas de chum, pas mariée.
Mais ma plus grande surprise... c'est que ça se soit réalisé. C'est bizarre. Je dis ça parce que j'ai jamais voulu d'enfant. Je me suis questionnée à plusieurs reprises dans ma vie pour être sûre que c'était le bon choix. Tu le sais, on a traversé plusieurs de mes ruptures ensemble. Être en couple, j'ai eu des magnifiques relations de 4, 5, 6 ans qui ont duré, des hommes très significatifs, mais c'était pas simple. Mais j'ai jamais pensé véritablement ce que ça me ferait d'être là à 52 ans. Puis c'est un peu une surprise de me retrouver à 52 ans, pas d'enfant, pas de chum. C'est un peu une surprise avec laquelle je sais pas quoi faire.
Et, attends une minute, c'est à la fois une surprise puis c'est en même temps une vision que tu avais quand tu étais plus jeune.
Mais on dirait, j'avais pas mesuré qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire peut-être vieillir sans personne pour s'occuper de moi. Ça, c'est une grosse préoccupation que j'ai en ce moment. Ça veut dire, à 52 ans, c'est plus tant juste moi qui décide si je vais être en couple ou pas. Parce qu'à 52 ans, on devient un peu invisible. Plus que quand on a 20, 30 ou 40, les femmes. Donc, tu sais, ça, il y a ça aussi. Je suis très heureuse de ma situation, puis je suis vraiment en couple par choix, puis je suis très fermée à rencontrer quelqu'un. Depuis 2 ans, je vis mon célibat à fond, avec beaucoup, beaucoup de bonheur, ceci dit. Mais... je me pose la question, dans 1 an, dans 2 ans, si j'ai envie d'être en couple, ça va-tu être possible? Est-ce que j'aimerais peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants? J'ai toujours pensé que j'aurais des enfants dans ma vie, mais par un autre moyen. Puis là, c'est ça la surprise. La surprise de ma vie, c'est que ça me surprenne. Que je sois rendue là, même si c'était le plan de match.
C'est le fun.
C'est bizarre, hein?
Belle réponse. C'est intéressant.
Alors, si tu avais une baguette magique et qu'il t'était accordé un seul vœu, quel serait-il? Eh là là. J'aimerais, d'un coup de baguette magique, qu'on s'occupe vraiment mieux de nos vieux puis nos vieilles. Ça, là, si demain matin, là, on pouvait avoir 80 % des gens qui étaient soignés, dont on prenait soin à domicile, puis que la portion qui se retrouve dans nos institutions soit bien stimulé, entouré, bien nourri, dans des endroits où on a des CPE en même temps que des...
C'est
si
beau,
on avait tout ça, là, parce que ça me fait de la peine de savoir que si on y arrive, ça va être dans quelques décennies. Ça me fait de la peine de penser que pendant tout ce temps-là, il y a des années de qualité de vie qui se perdent.
Et que nos vieux souffrent.
Et que les gens dans leur entourage qui s'occupent d'eux aussi souffrent en les voyant souffrir puis en étant tellement impuissants.
C'est une réponse qui est incarnée, ça.
Oui, parce qu'en ce moment, ma mère a des problèmes. Ma mère est jeune, elle a 73 ans, elle est très, très jeune, mais elle est hypothéquée physiquement. Puis elle est au moment où on se parle hospitalisée depuis plusieurs semaines et diminuée, fragilisée depuis quelques années. Là, ça me saute en pleine face. Là. Ça me saute en pleine face. Ma vie vient de changer là, pour les prochaines années. Puis sa vie aussi vient de changer. Elle a toute sa tête. Elle est jeune. Elle est capotée, ma mère. Là. C'est la femme la plus brillante que je connaisse. Puis elle a toute son énergie, toute sa lucidité. Elle lit 2-3 livres en même temps. Elle est sur l'ordinateur tout le temps. Mais physiquement, il y a... C'est ça, là, je rentre dans un rôle de prochain aidante encore plus intense pour le reste de sa vie et de ma vie. Puis je vois ses besoins, puis je vois qu'elle est moderne, actuelle. Puis je dirais, elle est en jaquette depuis 3 semaines, puis elle est à la merci des gens qui, fort heureusement, s'occupent merveilleusement bien d'elle, mais dans un système qui est tout brisé, tout poqué. Mm-hmm. Notre système est tout poqué. Je sais pas comment on a laissé aller les choses jusque-là. Là. Puis, tu sais, je vois ce qui pourrait la rendre heureuse, tu sais, dans ses dernières années de vie. Puis, j'aimerais ça que collectivement, on s'occupe tout de nos vieux, tu sais.
Tu sais, à défaut d'avoir tes enfants, à défaut que j'en ai, ça nous laisse du temps pour prendre soin de nos proches. T'sais, j'ai passé
absolument.
Du temps beaucoup avec mon père.
Ouais.
Tu passes du temps avec ta mère.
Si j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant. Je peux passer tous les jours avec toi, 5, 6, 7 heures dîner, souper. Tu t'es passé cette réflexion-là, toi aussi, dans les derniers temps avec ton père?
C'est clair. J'en ai profité. Le fait de ne pas avoir été submergé par le travail, j'ai pu aller voir mon père. S'il avait fallu que j'aie une job, un tournage, une série de 80 heures semaine, j'aurais jamais pu vivre ces moments précieux-là.
Moi, je commence à réfléchir à ça, parce que moi, je travaille 60 heures semaine. Mais je commence beaucoup à réfléchir à ça. Comment j'aménage ça? Comment je trouve du sens à l'extérieur de mon travail? Parce que moi, j'en trouve pas de sens dans ma vie à l'extérieur de mon travail tant que ça.
Mais ta maman
te
donne une occasion de donner, de servir, d'aimer, d'accompagner.
Oui.
C'est
génial.
Elle
est bonne, elle réfléchit, elle plonge dans ses réflexions. Ça la brasse, ça la... Elle est bonne, là. Mon Dieu, qu'elle est bonne.
Ouais,
elle
saisit
les opportunités pour grandir, c'est capoté. Ben
elle est bonne parce qu'il y a de la bonté autour d'elle. Je parle à peine de toi.
Toutes catégories confondues, ton plus grand accomplissement. Oh non, ça, c'est dur. C'est dur, ça.
Pourquoi c'est difficile?
Ben parce que j'en vois pas. J'en vois pas. Je trouve...
J'aime pas ta face, toi,
ouais,
quand
je
tu
sais.
Dis ça.
Parce que je peux... T'sais... J'en ai pas. J'ai pas encore... J'ai grand espoir que d'ici la fin de ma vie, j'aurai accompli quelque chose de grand.
Parce que
j'en suis convaincue.
OK.
Mais non, jusqu'à maintenant, j'ai des accomplissements professionnels. Le fait de durer, par exemple, ça, c'est comme c'est comme tout un accomplissement. Tu sais, de m'être... Bon, rétabli de mon accident. Il y a des gens qui vont dire que c'est un accomplissement. M'être construit une vie qui me ressemble, d'avoir des amitiés qui durent. C'est des choses qui sont très importantes pour moi. Mais un accomplissement, pour moi, ça doit rayonner... pour la collectivité. Pour moi, pour que ça rentre dans la catégorie accomplissement, pour moi. Mais ceci dit, si j'avais un chum ou une amie qui me dirait « Hey, on se construit-tu une maison de nos mains? » Puis au bout de 3 ans, là, je ferais, OK, ça, c'est un accomplissement, même si ça ne bénéficiait pas de la collectivité. Mais moi, j'ai l'impression que les choses me sont arrivées aisément, que j'ai eu du privilège, que les choses ont été, oui, dans l'adversité, souvent dans l'adversité, mais non, je vois pas d'accomplissement encore assez grand pour dire... Je mets le saut grand accomplissement là-dessus.
OK, mais c'est intéressant parce que c'est une belle réponse en soi, dans le sens que ça dévoile un peu d'humilité parce que tu cherches encore à grandir, tu attends des défis, tu es prête à en relever et comme tu dis, c'est que ça implique les autres. Un petit peu comme l'image de papa qui a fondé la maison de la Fondation Jean-Lapointe, c'était son plus grand accomplissement.
Oui, c'est ce qu'il disait.
C'est ce qu'il disait jusqu'à la mort,
oui, c'est
jusqu'à la fin de sa vie.
C'est sûr.
Alors, au-delà de la Place des Arts, le Grand Théâtre, l'Olympia de Paris, au-delà des tonnes de billets de vendus, l'abondance financière qu'il a accumulée durant une partie de sa vie, son plus grand accomplissement est en lien avec les autres qui souffrent.
C'est tellement ressorti lors des cérémonies.
Ouais.
C'était quand même très, très, très impressionnant, les gens qui soulignait ça.
T'étais
c'était
là.
Beau.
C'était le fun de te voir. Je sais que t'étais là.
C'était tellement beau.
J'étais content que tu y sois.
Cette portion-là.
Écoute, je te souhaite de beaux et grands accomplissements qui vont être en lien avec tes valeurs de tête, de cœur, d'esprit, avec tes talents. Je te laisserai la dernière question. Elle n'est pas dans un sac. Elle est sur un petit bout de papier qui est écrit... Penelope McQuaid, c'est 3 petits points. Comment tu remplis les 3 petits points?
Une meilleure humaine en devenir. Ouais, une bonne humaine en devenir.
Penelope McQuaid, merci pour cette presque heure passée avec toi.
Ça fait tellement plaisir.
C'était le fun de te voir. Merci. Ben,
merci, Jean-Marie, pour l'invitation, vraiment, et pour cet espace de discussion libre et bienveillant.
C'est beau, hein? C'est le fun, hein? Là, t'étais en vacances, t'avais pas de plan de match à faire, t'avais juste à être cute.
Puis on s'en va prendre un café.
Yes. Alors, c'était l'émission Porte-parole, un concept et une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre et de Jean-Marie Lapointe. J'aimerais remercier notre directeur radio, Philippe Lapointe, chef diffusion Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde Mathieu Tessier, aux réseaux sociaux Gerly Ormelet. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Porte-parole.